VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Sommet du G7 au Japon, les leaders des grandes puissances industrialisées sont réunis à Iseshima pour une réunion à l'ordre du jour chargée avec une croissance mondiale à tonnes, les disputes avec la Chine ou encore les migrations. Mais le sommet du G7 devrait être éclipsé par la visite du président américain Barack Obama demain à Hiroshima. On fait le point avec John Lyndon.
Le sommet des chefs d'État du G7 a pour toile de fond la morosité de la croissance mondiale. Tous invoquent l'équilibre qu'il faudra y trouver entre politique monétaire, budgétaire et réformes structurelles. Cependant, les divisions sur la façon dont il faudrait doser ces leviers ne devraient pas s'effacer à ce sommet. Mais la visite que doit effectuer le président américain demain à Hiroshima va éclipser les débats du G7. Je veux une fois encore souligner les risques très réels qui existent et le sens de l'urgence que nous devrions tous avoir, a dit le chef de la Maison-Blanche lors d'un point de presse. Barack Obama a par ailleurs clairement dit qu'il ne se rend pas à Hiroshima pour présenter des excuses. Le matin du 6 août 1945, 140 000 personnes ont été tuées à Hiroshima par une bombe atomique américaine.
La crise migratoire maintenant, nouveau naufrage de migrants au large des côtes de la Libye aujourd'hui. Le capitaine Antonino De Renzi Sonino, porte-parole de l'opération Sophia, la force navale européenne de lutte contre l'immigration clandestine, parle de 20 à 30 morts. Jacques Aristide.
C'est un avion luxembourgeois qui a donné l'alerte après avoir localisé une embarcation qui avait chaviré avec environ une centaine de migrants à l'eau ou accrochés à l'épave. Un autre appareil, espagnol, est arrivé sur place et a largué des kits de secours, deux vedettes des gardes-côtes italiens et un navire espagnol participant à l'opération Antipasseur se sont également rapprochés des migrants et en ont secouru plus de 80, d'après le capitaine De Renzi Sonino. Ce nouveau drame de l'immigration survient au lendemain d'une tragédie similaire au cours de laquelle 5 personnes ont trouvé la mort quand leur embarcation de fortune a chaviré, toujours au large des côtes libyennes. Des centaines de personnes sont tombées à la mer et 562 ont pu être sauvées par la marine italienne qui a publié des images saisissantes de cet événement.
Afrique subsaharienne maintenant, en RDC, un civil tué, une policière grièvement blessée à Goma. Tel est le bilan des manifestations en faveur du respect des délais constitutionnels pour la tenue de la présidentielle censée avoir lieu cette année. Le civil, un pillard selon la police, a été tué quand les policiers ont violemment réprimé des protestataires dans le chef-lieu du Nord, Kivu, dans l'est du pays. Des attroupements de jeunes avaient dressé des barricades sur la voie publique alors que la manifestation avait été interdite par le gouvernement du Nord Kivu. Une policière a été grièvement blessée pendant les échauffourées. Par contre, au sud Kivu voisin, la manifestation autorisée par le gouvernement local à Bukavu s'est déroulée dans le calme. Environ 2500 protestataires y ont participé. À Kinshasa, la capitale, deux éminents leaders politiques, Eve Bazaïba du Mouvement de Libération du Congo, MLC, et Vital Kamerhe de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, ont participé à la manifestation qui avait reçu le feu vert de la mairie. Mais la police a dispersé les quelques 5000 manifestants à coups de gaz lacrymogène quand ils ont quitté l'itinéraire prévu à l'origine. L'ONU, présente en RDC par le biais de la MONUSCO, suit de près la situation politique dans le pays. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait appelé hier au calme et à la retenue à la veille des manifestations. Michel Joseph.
Selon son porte-parole, M. Ban est profondément préoccupé par les informations relatives aux tensions politiques grandissantes liées à l'incertitude qui persiste autour du processus électoral en RDC. Il appelle au strict respect des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution et exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à exprimer leurs opinions pacifiquement, y compris dans le cadre des manifestations prévues ce 26 mai. M. Ban invite aussi les acteurs politiques congolais à s'engager de manière constructive dans un dialogue politique visant à résoudre pacifiquement leurs divergences. Il les exhorte à coopérer avec le facilitateur du dialogue national inclusif de l'Union africaine, M. Edem Kodjo, et réitère le soutien de l'ONU aux efforts de celui-ci.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Ouganda, 6 ans après le double attentat islamiste qui a fait 76 morts le 11 juillet 2010 à Kampala, Le cerveau présumé de l'attaque a été reconnu coupable de terrorisme par un tribunal de Kampala, justement. Maëlys Segel.
Issa Louima est coupable du crime de terrorisme dont il est accusé, a déclaré le juge Alphonse Owinidolo devant la haute cour de la capitale ougandaise. Le 11 juillet 2010, des engins explosifs ravagent un bar et un restaurant de Kampala en pleine retransmission de la finale de la Coupe du Monde de football. Bilan, 76 morts. Les Chebabs avaient revendiqué l'attaque disant que c'était en représailles au déploiement en 2007 de troupes ougandaises en Somalie. Les 13 accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et 1 Tanzanien, ont tous plaidé non coupables. Leur procès avait été retardé après l'assassinat en mars 2015 de la procureure Joanne Kabezi. Elle avait été tuée par balle par des hommes en moto alors qu'elle rentrait en voiture chez elle avec ses 3 enfants. La semaine prochaine devrait se tenir une audience distincte sur les peines si les accusés sont reconnus coupables.
Ouganda toujours, le fils du président ougandais Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans dément vouloir succéder à son père à la tête du pays. Muhoozi Kainerugaba, qui s'exprimait après avoir été promu du rang de général de brigade à celui de général de division en charge des forces spéciales, s'est déclaré content d'être dans l'armée, selon le quotidien gouvernemental New Vision. Afrique de l'Ouest maintenant, Côte d'Ivoire, affrontement entre étudiants et la police aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Selon Fulgence Assis, secrétaire général de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, près d'un millier d'étudiants s'étaient rassemblés pour préparer un meeting à l'université quand ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des policiers. Les étudiants ont réagi en jetant des pierres, a ajouté Fulgence Assis, en évoquant un malentendu. Pas de blessés à signaler. Rappelons que la Fédération étudiantine ivoirienne proche de l'ex-président Laurent Gbagbo a souvent été accusée par les ONG nationales et internationales de violence à l'égard des opposants de l'ancien chef d'État et de rackets en milieu étudiant. Au Burkina Faso, le parti du président Roquemont Christian Kabore a remporté les élections municipales de dimanche selon des résultats provisoires globaux publiés par la CENI. Les résultats définitifs seront prononcés par le Conseil d'État après la période de contentieux ouverte pour une semaine. Écoutez la réaction d'un militant du pouvoir après le succès du MPP.
Franchement dit, c'est une joie pour le MPP. On compte beaucoup sur le peuple qui a renoué sa confiance à notre parti et plus précisément au président Roch Kabore pour qu'il puisse vraiment mener à bien le bateau burkinais.
On reste en Afrique de l'Ouest. Le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement levé les dernières sanctions pesant sur le Libéria, 13 ans après la fin de la guerre civile dans le pays. De nouveau, Jacques Aristide.
Le régime de sanctions visait notamment à lutter contre le trafic de ressources naturelles ou geler les avoirs de certains individus. Également, dans l'arsenal, un embargo sur les armes destinées aux acteurs non étatiques et l'obligation pour le gouvernement du Libéria de notifier à l'avance ses achats d'armement. La résolution mettant fin aux ultimes sanctions a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité qui saluent les progrès constants du gouvernement libérien dans la reconstruction du pays, mais l'invite tout de même à adopter rapidement une législation sur les armes et à mieux contrôler ses frontières. Les États-Unis, qui avaient mis au point cette résolution, se sont félicités de la levée des sanctions. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, trouve que cette décision est une preuve supplémentaire des progrès important accompli par le Libéria et la sous-région pour maintenir la stabilité.
Actualité hors d'Afrique, en Irak, les forces pro-gouvernementales irakiennes poursuivent leur offensive entamée lundi pour reprendre Fallujah, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Bagdad et contrôlée par le groupe ultra-radical État islamique depuis janvier 2014. Par ailleurs, au plan politique, depuis des semaines, des Irakiens, pour la plupart sympathisants du chef chiite Muqtada Sadr, manifestent tous les vendredis pour obtenir la formation d'un gouvernement de technocrates qui pourrait lutter plus efficacement contre la corruption en Irak. Et au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a conclu un accord sur l'entrée dans son gouvernement de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman comme ministre de la Défense. Côté palestinien, Saeb Erekat, numéro 2 de l'OLP, a dit que ce gouvernement représente une vraie menace d'instabilité et d'extrémisme dans la région. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a dénoncé le retour de Lieberman comme une escalade dans le racisme et l'extrémisme. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.